Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mardi 27 février sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. L'embargo sur les armes contre Israël est essentiel pour donner du crédit à la décision de la CIJ sur le génocide à Gaza. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran qualifie Israël de véritable source de prolifération des ADM dans la région de l'Asie de l'Ouest. Le Hezbollah libanais a bombardé une base israélienne dans le Golan occupé avec 60 roquettes grades en réponse aux frappes menées par Israël contre Baalbek. Et des affrontements entre des agriculteurs européens et la police anti-émeute à Bruxelles, la capitale belge. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères considère le régime sioniste comme une véritable source de prolifération des armes de destruction massive, ADM, dans la région, rappelant que ce régime constitue aussi la menace la plus grave qui existe pour l'humanité tout entière. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques le 26 février lors d'une réunion des membres de la conférence du désarmement à Genève, en Suisse, où il a appelé à la mobilisation des efforts internationaux contre les menaces posées par le régime israélien à la paix et à la sécurité mondiale. Il est nécessaire que tout l'arsenal nucléaire du régime soit éliminé et que toutes ses installations nucléaires soient placées sous les mécanismes de garantie et de vérification de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a-t-il dit. Le ministre iranien a rappelé que l'administration israélienne dirigée par Benjamin Netanyahou avait été enhardie par le soutien des États-Unis et de certains pays occidentaux dans la guerre en cours contre les Palestiniens à Gaza. Le régime ayant même menacé d'utiliser des armes nucléaires contre le Hamas, le mouvement de résistance au pouvoir dans le territoire assiégé de Gaza. Ce n'est pas un lapsus de la part d'un ministre du cabinet de Netanyahou qui a recommandé d'utiliser l'option nucléaire pour éliminer le mouvement de libération du Hamas. Netanyahou avait déjà évoqué la nécessité de confronter l'Iran à une véritable menace nucléaire dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023. A fait noter le plus haut diplomate iranien. M. Amir Abdollahian a déclaré que l'utilisation d'armes chimiques par l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein contre les Iraniens pendant la guerre Iran-Irak avait fait du pays la plus grande victime des armes de destruction massive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a expliqué qu'il fallait une solution efficace et concrète contre de telles menaces pour l'humanité. Il a par ailleurs exprimé l'espoir que la présidence tournante de l'Iran à la conférence du désarmement, qui débutera le 18 mars, conduira à une plus grande coopération entre les membres et sur ce sujet notamment. Le Hezbollah libanais annonce avoir bombardé une base israélienne dans le Golan syrien occupé avec 60 roquettes grades en réponse à l'escalade au Liban. Le mouvement de la résistance islamique du Liban, Hezbollah, a annoncé lundi 26 février avoir ciblé le quartier général de la brigade Golani à Nafar dans le Golan occupé. Lors de cette attaque, le Hezbollah a lancé 60 roquettes grades sur la base concernée. L'attaque vise à répondre aux frappes menées par le régime lundi sur les abords de Baalbek dans la plaine orientale de la Beka, qui ont fait 2 morts parmi les combattants du Hezbollah. Les médias israéliens ont rapporté que des sirènes de raids aériens avaient retenti dans les colonies israéliennes de Kidmat Zivi, Shaal et Bortal, dans le Golan occupé. À la suite de l'attaque contre Baalbek, la résistance islamique libanaise a annoncé que ses combattants avaient réussi à abattre un drone israélien Hermes 450 qui violait l'espace aérien libanais au-dessus de la ville d'Irlim al-Toufa, au sud Liban, à l'aide d'un missile solaire. Plus tôt, les médias israéliens avaient rapporté que des sirènes d'alarme avaient retenti à Marj ibn Amer dans la région d'Afoula, notant que les systèmes antiaériens avaient repoussé le missile solaire lancé depuis le Liban. Les médias israéliens avaient au départ rapporté que le missile lancé depuis le Liban contre le drone avait disparu. Le communiqué du Hezbollah a confirmé le contraire. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'une éventuelle attaque terrestre israélienne contre la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, qui subit une guerre génocidaire israélienne, porterait un coup mortel aux opérations d'aide de l'Organisation mondiale dans l'enclave côtière assiégée. Antonio Guterres a fait ses remarques ce lundi 26 février devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève face aux menaces du régime de lancer une offensive terrestre à grande échelle contre Gaza et plus particulièrement sa ville méridionale de Rafah. Rafah accueille plus de 1,4 million de Palestiniens qui ont fui les ravages de la guerre qui a jusqu'à présent tué près de 30 000 personnes. Une offensive israélienne totale sur la ville serait non seulement terrifiante pour plus d'un million de civils palestiniens qui ont trouvé refuge, mais elle mettrait aussi le dernier clou au cercueil de nos programmes d'aide, a dit Guterres. Il a ajouté que la ville située à l'extrême sud de Gaza était le cœur de l'opération d'aide humanitaire pour l'enclave palestinienne assiégée. Un jour plus tôt, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait redit publiquement que son régime avait l'intention de procéder à une invasion terrestre pour concrétiser son souhait d'obtenir une illusoire victoire totale sur le mouvement de résistance palestinien Hamas basé à Gaza. Dans le cadre d'un accord d'échange, Israël libéra 400 Palestiniens en échange de 40 captifs israéliens. Un nouveau rapport a publié les détails d'un accord d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, en vertu duquel le régime d'occupation sioniste libéra 400 Palestiniens en échange de 40 colons détenus par les groupes de résistance basés à Gaza. L'accord d'échange, qui sera accompagné d'une trêve de 6 semaines, s'inscrit dans le cadre des récentes négociations à Paris entre les représentants israéliens, américains, égyptiens et qataris, selon la chaîne Al Jazeera. Citant des sources non identifiées impliquées dans les discussions, le rapport indique qu'Israël a accepté de libérer 400 Palestiniens détenus dans les prisons du régime en échange de 40 captifs sionistes se trouvant dans la bande au Gaza. Israël a également accepté le retour progressif des Palestiniens déplacés vers le nord de Gaza, à l'exception des jeunes hommes qui sont en âge de recruter, et l'entrée d'une aide supplémentaire comprenant des machines et des équipements lourds, et enfin et apparemment l'installation d'abris temporaires dans le territoire assiégé. Le régime aurait en outre décidé de suspendre le vol de ses avions de combat au-dessus de la bande de Gaza, y compris ceux chargés de la collecte du renseignement, et ce, pour une durée de 8 heures. Le rapport fait suite au voyage d'une délégation israélienne à Doha, où l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a rencontré le chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Interrogé sur la date à laquelle il pensait qu'une trêve pourrait démarrer, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il espérait un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi prochain. Israël a lancé une guerre génocidaire contre Gaza, soutenue par les États-Unis, le 7 octobre après que le Hamas a mené l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre le régime usurpateur en représailles à ses atrocités accrues contre le peuple palestinien. Près de 5 mois après le début de l'offensive contre Gaza, le régime de Tel Aviv n'a cependant pas réussi à atteindre ses objectifs de détruire le Hamas et de retrouver le lieu de détention des captifs sionistes, bien qu'il ait tué près de 30 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, sans oublier plus de 70 000 Palestiniens blessés. À la suite d'un cessez-le-feu humanitaire d'une semaine, à la fin du mois de novembre, 240 Palestiniens enlevés et détenus par Israël ont été échangés avec 105 captifs israéliens, dont 81 Israéliens et 24 ressortissants étrangers. Israël estime qu'il reste encore 130 prisonniers à Gaza, tandis qu'il y aurait 7000 Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont beaucoup sont détenus sans inculpation. À Bruxelles, la capitale belge, des agriculteurs ont fait face lundi 26 février à la police anti-émeute dans les rues de la capitale, paralysée par des centaines de tracteurs en marge d'une réunion des ministres des 27, prêts à réviser la politique agricole commune PAC. Comme le 1er février, la capitale belge a été le théâtre d'une démonstration de force du monde agricole. Quelques 900 tracteurs ont été dénombrés par la police, qui a barricadé le quartier européen. Sans blessés ni affrontements violents, le face-à-face était tendu. Les autorités répondaient avec gaz lacrymogène et canons à eau aux jets d'œufs, brasiers de pneus et feux d'artifice. quelques 700 manifestants étrangers venus principalement d'Italie et d'Espagne étaient également présents, selon la police. Sous pression des États membres, la Commission européenne présentait lundi ses premières pistes de simplification des règles de la PAC. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'embargo sur les armes contre Israël est essentiel pour donner du crédit à la décision de la Cour internationale de justice sur le génocide à Gaza. Qualifiée de puissante bataille juridique menée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, CIJ, contre Israël pour sa guerre génocidaire contre les Palestiniens à Gaza, certains apologistes de l'entité sioniste ont lancé le mantra selon lequel cette affaire était un exercice futile. Cependant, à leur grande consternation, le plus haut tribunal de l'ONU a fait droit à la demande de l'Afrique du Sud et a ordonné au régime israélien de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les actes de génocide dans le territoire palestinien assiégé. Depuis lors, toutes les preuves indiquent que non seulement Israël a ignoré la décision de la CIJ, mais qu'il a ouvertement agi contre elle en intensifiant sa campagne meurtrière contre Gaza. C'est en raison de cette violation flagrante de l'arrêt de la CIJ qu'une organisation de défense des droits de l'homme basée à Genève, Euromed, a publié une déclaration appelant les États membres de la CIJ basée à La Haye à rompre toute forme de relations politiques, militaires et économiques avec Israël. Dans le cadre d'un exercice important au cours de 4 semaines écoulées depuis la décision de la CIJ et dans le cadre du suivi du procès de l'Afrique du Sud contre Israël pour violation de ses obligations au titre de la Convention sur le génocide, Euromed Monitor a documenté plusieurs violations israéliennes depuis le 7 octobre. Le résultat des recherches d'Euromed démontre que, d'après les preuves examinées, l'armée de Benjamin Netanyahu continue de commettre un génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Les violations persistantes du droit international et de la Convention de Genève, au mépris total de la plus haute Cour de justice, a conduit plus de 50 pays à présenter des observations orales devant la plus haute juridiction des Nations Unies, basée à La Haye, sur l'illégalité de l'occupation, des colonies et de l'apartheid. Bien que ces cas soient distincts du cas du génocide en Afrique du Sud, ils témoignent d'une indignation mondiale généralisée contre le comportement arrogant d'Israël. C'est en effet sans précédent qu'autant de pays émergent les uns après les autres et présentent sans crainte de formidables arguments juridiques pour expliquer pourquoi la CIJ devrait demander des comptes à Israël. Cependant, le premier test important que ces pays doivent passer est celui de l'intégrité. Le deuxième test crucial consiste à déterminer s'ils sont déterminés à donner suite à leurs vives préoccupations. Selon Euromed Monitor, depuis que la CIJ a statué sur l'arrêt du génocide, l'armée de Netanyahou a tué plus de 3 847 Palestiniens, 2 306 enfants et 807 femmes, et blessé environ 5 119 personnes. Et le mastodonte sanglant continue son chemin. Dans un mépris total pour les interdictions imposées par la Cour internationale de justice. Se référant à la décision de la CIJ, les experts de l'ONU concluent à juste titre que la nécessité d'un embargo sur les armes contre Israël est renforcée par l'arrêt de la Cour internationale de justice du 26 janvier, selon lequel il existe un risque plausible de génocide et de graves dommages causés aux civils à Gaza. Loin de normaliser le génocide israélien, comme certains despotes arabes sont enclins à le faire, la solidarité avec la lutte pour la liberté de la Palestine nécessite un boycott global et un embargo efficace sur les armes du régime de l'apartheid israélien.
Thank you. Bonjour à tous, bienvenue ici pour le programme Débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement qui a commencé en Allemagne et qui a vu s'épandre dans toute l'Europe et notamment ces derniers jours en France. C'est le mouvement des agriculteurs. Nous allons en parler, c'est le sujet de notre débat. Nous avons tout d'abord préparé un reportage résumant plus ou moins la situation sur place. Je vous propose de le regarder et par la suite nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite.
Un groupe d'agriculteurs français a fait éruption dans un important salon agricole parisien avant la visite prévue du président Emmanuel Macron, exprimant leur frustration face aux dépenses, aux obstacles bureaucratiques et aux règles environnementales. Samedi, en pleine foire, les agriculteurs ont été confrontés à une multitude de policiers. Leurs voix ont résonné dans la salle alors qu'ils exprimaient leur mécontentement, exigeant la démission de Macron et affichant leur frustration à l'égard du dirigeant français en utilisant un langage offensant. « C'est notre maison », ont-ils crié, alors que les lignes de CRS français cherchaient à contenir la manifestation. Il y a eu quelques affrontements avec des manifestants et la police a arrêté au moins l'un d'entre eux, selon un témoin de Reuters. Après que les syndicats d'agriculteurs ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au salon, Macron a annulé son débat prévu samedi avec les agriculteurs, les transformateurs de produits alimentaires et les détaillants. « Je le dis à tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en détruisant les stands. Vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible. Et d'une certaine manière, vous dissuadez les familles de venir », a déclaré Macron aux journalistes après avoir rencontré les dirigeants syndicats. Les manifestations paysannes en cours, qui se sont étendues à toute l'Europe, coïncide avec la montée attendue de la faction politique d'extrême droite lors des prochaines élections au Parlement européen. Ce groupe politique particulier a identifié les agriculteurs comme une base de soutien en plein essor, soulignant encore davantage l'importance de ces protestations. Plus tôt ce mois-ci, les agriculteurs français ont décidé de mettre un terme à leur manifestation qui consistait à bloquer les autoroutes et à déposer au fumier devant les bâtiments publics. Cette décision intervient après que le Premier ministre Gabriel Attal s'est engagé à mettre en œuvre de nouvelles mesures évaluées à 433 millions de dollars. Mais les manifestations reprises cette semaine afin de continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il tienne parole.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout de suite, nous allons présenter nos deux invités pour ce débat. Tout d'abord, nous avons Jean-Maxime Corneille, expert politique, expert géopolitique également. Bonjour, monsieur Corneille. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Toujours un plaisir de vous avoir. Notre deuxième invité étant monsieur Bernard Cornu. Nous aimons le présenter comme étant un militant humaniste. Bonjour monsieur Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour et aussi aujourd'hui, je suis ancien expert de la FAO, Moyen-Orient, il y a bien longtemps, mais j'avais la formation pour cela.
Merci en tout cas pour le spécifier. Alors monsieur Cornu, nous allons commencer par vous. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe à l'heure actuelle, parce que le mouvement des agriculteurs n'a pas commencé en France, a commencé en Allemagne, a été poursuivi en France ces dernières semaines. Et bien sûr, le salon de l'agriculture a commencé. On devait s'attendre à des manifestations aux alentours. C'est ce qui s'est passé. Monsieur Corneille, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu la situation pour laquelle les agriculteurs en Europe ne sont pas satisfaits et veulent s'en prendre à leur gouvernement?
Alors nous avons vu une hypocrisie complète. En fait, là, le président devait ouvrir le salon de l'agriculture. C'est une tradition annuelle. Il coupe le ruban bleu. Il signifie l'ouverture du salon de l'agriculture pour rappeler, au nom du gouvernement, de la politique, que la France se souvient de qui la nourrit. Là-dessus, en soi, ce n'est pas malsain. Par contre, ce que l'on voit, c'est le réel climat d'opprobre, d'opposition à Macron qui est absolument manifeste dans le monde agricole, non sans raison. Et le véritable sujet derrière, c'est une énorme hypocrisie. Mais bon, l'hypocrisie, c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il fait semblant ici d'être du côté des agriculteurs, alors qu'en réalité, il gagne du temps, tandis qu'il fait tout pour les exterminer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire les éradiquer. Vous avez tout est fait pour que les agriculteurs français disparaissent. Le président est totalement responsable des traités de libre-échange qui sont conclus aujourd'hui. Et pour des raisons idéologiques, on fait en sorte que les agriculteurs en France ne puissent plus exercer leur métier. Là, vous voyez, j'étais quelques jours en Normandie, j'ai discuté avec des vrais agriculteurs. Leur vie au quotidien est conçue pour les séparer de la nation et gagner du temps le temps qu'ils périssent. C'est très malsain. Voilà la vraie raison de fond. C'est-à-dire que l'Union européenne impose des contrats, des accords de libre-échange qui sont totalement malséants et totalement destructeurs pour l'agriculture française. Mais ce n'est pas récent. J'avais vu ça il y a 20 ans, lorsque j'avais fait 15-20 ans, lorsque j'avais fait un stage au Parlement européen. Je voyais face à moi des gens qui avaient mon âge et qui disaient que c'est formidable de forcer des vignerons français à arracher leurs plants de vignes parce que ça permet d'importer du vin chilien. Mais quelle est la part de corruption derrière ces décisions? Décision débile, ces gens n'ont jamais bossé dans l'agriculture et sont loin de la terre. Il y a vraiment, c'est le propre du mondialisme que de mener une guerre contre le peuple et notamment contre les paysans. Il y a aussi une raison à ça, c'est que les paysans sont toujours éloignés des idéologies. Parce que quand vous êtes proche de la terre, vous ne pouvez pas avoir un idéologue qui va venir pour vous expliquer que la lune, par exemple, n'a pas d'influence sur les cultures. Le paysan va vous dire, bah, écoute, viens planter des radis, on en reparle. C'est donc une longue guerre mondialiste qui se retrouve à beaucoup d'époques et sous beaucoup de latitudes possibles, notamment les bolcheviks contre les paysans russes, notamment en Ukraine. C'est donc une constante que de détruire, et rappelez-vous que le propre du mondialisme et de la finance internationaliste, c'est toujours la famine au sein de l'abondance, ce qui au final amène la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire une guerre civile. Nous avons la mise en adéquation de la France avec ce mondialisme-là, c'est-à-dire la création artificielle de pénuries qui vont venir, et de fait un État qui est défaillant là-dessus, un président qui ne fait pas son travail, et le monde agricole qui ne s'est pas manqué de le lui rappeler à raison, à bon droit. Voilà.
Merci Monsieur Corneille pour votre opinion. Alors Monsieur Cornu, oui, on parle de libre-échange. Il faut aussi quelques recherches où on a dit que l'une des raisons aussi où les agriculteurs en Europe, et je parle bien seulement pour l'Union européenne, sont également chargés en matière de taxes, taxes de l'environnement, taxes de ceci, taxes de cela, à tel point qu'au niveau administratif, ils sont plus que fatigués de devoir tout remplir, de venir prouver tout ce qu'ils font à chaque minute. C'est aussi l'une des revendications des agriculteurs à l'heure actuelle, surtout que des fourgons de tomates et d'autres aliments, de poulet également, j'ai lu, avaient été trouvés sur la route quand ils ont bloqué les autoroutes françaises et venaient de pays qui ne respectaient mais pas du tout ce genre de règlement concernant l'agroalimentaire. Alors c'est aussi une des raisons, c'est le manque de soutien, mais en plus le fait que c'est deux poids, deux mesures.
Oui, c'est vrai que la théorie libérale est ancienne et elle est quand même dominante encore en Europe et dans le monde. C'est les vieilles théories disant que les Hollandais ont intérêt à échanger des draps contre du vin de Portugal. Ce sont des très vieilles théories et c'est en partie positif. C'est vrai qu'on ne peut pas vouloir vivre tous en autarcie. Il y a des produits qu'on ne peut pas produire sous nos latitudes et inversement. Donc en fait, il faut trouver la modération des accords de libre-échange qui fait que face à la contrainte principale maintenant, qui est celle de l'environnement, de la santé, du climat, il faut trouver des mesures justes qui permettent les échanges entre produits agricoles, mais qui les modèrent aussi, qui imposent à tout le monde les mêmes contraintes. Et comme l'a rappelé M. Corneille, c'est très complexe au niveau de l'environnement. Le métier d'agriculteur est un métier très complexe. Il faut connaître la mécanique, l'agriculture, le climat. On a affaire à des choses qui sont très contraintes, qui sont très difficiles. Il faut s'adapter tous les jours au temps qu'il va faire, au problème des maladies des animaux ou des plantes, mais c'est difficile. La solution de facilité à l'initiative surtout des États-Unis a été d'utiliser massivement des pesticides. On se rend compte maintenant des dangers de ces pesticides et il faut les contrôler. Mais certains pays sont plus avancés que d'autres au niveau de ces contrôles. Et de toute façon, effectivement, la protection des cultures et donc de l'alimentation des gens nécessite certains contrôles. Les paysans, je pense qu'ils ont une capacité d'autodiscipline, ils sont compétents, ils ont appris par leurs parents le plus souvent et par leur pratique quotidienne à modérer ces dosages de pesticides et à se protéger eux-mêmes. Mais dans d'autres pays, il y a parfois des usages massifs de pesticides pour la facilité et il faut effectivement faire des contrôles. Et quand effectivement les contrôles sont chers, sont compliqués, il y a beaucoup de marchandises qui sont polluées par les pesticides qui peuvent passer. Et aussi, cela augmente les rendements et donc fait baisser les coûts de production. Et donc, il y a une concurrence sur les prix qui se passe entre différents pays, parfois même voisins.
Excusez-moi, Monsieur Cornu.
Excusez-moi, Monsieur Cornu. Les manifestations ont d'ailleurs démarré en Pologne parce qu'on avait des entrées de produits ukrainiens qui n'étaient pas chers et qui s'étaient avérés finalement subventionnés avec une réduction des taxes à l'importation qui a fait que les premiers ont manifesté, c'était en Pologne.
Merci M. Cornu. Concernant ce que vous avez dit sur les pesticides, mais d'après ce que j'ai compris, c'est dans les contrats de libre-échange que se passe en fait le couac. C'est que les contrats de libre-échange entre par exemple l'Amérique du Sud ou l'Europe ou encore certains autres pays, si je me rappelle bien, il y avait le nom de la Chili qui avait été nommé, où c'est en fait dans les contrats de libre-échange où on adhère et on accepte le fait que les importations, par exemple, de viande ou les importations de légumes ne respectent pas les mêmes quotas et les mêmes règles concernant les pesticides. C'est-à-dire que les pesticides sont connus, sont sus, sont notés, sont annotés. Mais comme l'Europe se dit ouverte au libre-échange et qu'il faut être tolérant et donner la possibilité à ce contrat d'exister, eh bien, il y a une tolérance qui est faite et qui se fait sur le dos des Occidentaux, qui se fait sur le dos des Européens, des agriculteurs européens. Monsieur Cornet, vous en avez parlé, hein, de les libre-échanges tout à l'heure, vous l'avez mentionné. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui également indiquent que c'est un manque de souveraineté. Ils indiquent que tout est fait selon les règles des lois européennes sans prendre en compte les terrains. Qu'est-ce que vous en pensez quand on mélange donc le problème des agriculteurs à la souveraineté et à donc ce que je viens de mentionner sur les contrats de libre-échange qui indiquent directement dans ces contrats le fait qu'un territoire touché par ce contrat pouvait se montrer beaucoup plus laxiste sur les lois agroalimentaires?
Le libre-échange, en réalité, est conçu pour goinfrer les financiers. Il n'est pas conçu pour ni l'intérêt du peuple, ni l'intérêt des agriculteurs. Rajoutez à cela que le mondialisme, la logique, en fait, le mondialisme, c'est de la subversion financière internationaliste, c'est-à-dire des financiers qui veulent maximiser les profits à partir de l'agriculture en jouant sur tous les dumpings possibles, en se contrefoutant de la santé des gens ou de l'équilibre harmonieux des territoires. C'est-à-dire que vous créez des esclaves d'un côté, des chômeurs de l'autre, vous produisez des choses que vous pourriez très bien produire chez vous, mais vous les produisiez moins cher ailleurs en faisant travailler des esclaves, puis vous faites une grosse plus-value, vous jouez sur le dumping social, fiscal, environnemental, vous mettez des pesticides interdits qui sont mauvaises pour la santé des gens ou d'autres choses, voilà, le Roundup de Monsanto, les grains, etc., des OGM. Vous arrivez après à importer tout cela pour moins cher, vous ruinez l'économie locale, mais vous avez goinfré des financiers entre les deux. Un État normalement non défaillant ne peut pas tolérer ça. Ça ne limite pas l'idée qu'il puisse y avoir des échanges. Par exemple, en France, on fait peu de pistaches, alors qu'en Iran, on en fait des très bonnes. Mais là, on parle d'un autre sujet. Nous parlons de la mondialisation en tant que fait social, par opposition au mondialisme idéologique, qui en réalité est une subversion financière internationaliste, c'est-à-dire toujours l'idée de goinfrer les financiers. Et après, les accords de libre-échange ne servent à rien sauf à goinfrer des financiers. C'est totalement antisocial, c'est antilogique. Vous faites produire le plus loin possible des produits moins bons plutôt que de produire de très bons produits localement. Et vous dites que si les paysans ne sont pas d'accord, ce sont des vilains. Ce n'est pas correct. Avant tout, ce n'est pas correct. C'est une idéologie économique qui a triomphé en Occident depuis progressivement 5 siècles, 3 siècles, mais c'est un accident de l'histoire. Aucune civilisation ne se serait développée de cette façon-là. C'est basé sur la destruction, la défaillance des États et le refus de la fonction sacrée de l'État qui est la protection du peuple. Protection contre les menaces physiques, mais également contre les menaces financières, donc, et contre les menaces idéologiques. Or là, nous avons des préceptes idéologiques qui aboutissent à la destruction de ce dont les gens ont besoin. Voilà le problème derrière le soi-disant libre-échange. Le libre-échange, en réalité, n'est qu'un autre nom, pour, en réalité, globalement, la subversion financière internationaliste et le fait de goinfrer les financiers, de nourrir, d'accaparer toujours plus, de concentration de la richesse entre quelques financiers toujours moins nombreux, ce n'est pas correct. C'est tout. C'est une logique financière, mais c'est un abus, en réalité.
Merci, M. Cornu. Alors, M. Cornu, il y a une question qu'on doit se poser, outre le fait que les agriculteurs ne sont pas contents, ce ne sont pas les seuls, ce ne sont pas les seuls syndicats, ce ne sont pas les seuls groupes de travailleurs en Europe, et je parle bien sur toute l'Europe, on prend l'exemple de la France, mais on a vu ce mouvement se faire en Lituanie, en Belgique, en Allemagne, en Italie, vous avez nommé la Pologne. Est-ce que les élections européennes vont arriver dans très peu de temps, est-ce qu'on peut s'attendre à encore plus de cassures entre les peuples de l'Union européenne et l'Union européenne, je parle de l'institution.
Non, je pense que même les technocrates de l'Union européenne sont capables d'évoluer sous la pression des agriculteurs et de la bonne information. Moi-même, je suis quand même un peu internationaliste, les échanges ne sont pas humains et de produits ne sont pas tous nécessaires. Donc effectivement, il faut les modérer. Il y a un autre exemple qui est important, un autre critère, c'est le critère des prix des terres ou de la disponibilité des terres. En France, nous importons énormément de moutons, d'agneaux depuis la Nouvelle-Zélande parce que la Nouvelle-Zélande a une faible densité, beaucoup de terres, un climat favorable à l'élevage des moutons. Et donc, on les importe. Mais ils sont importés effectivement refroidis dans des containers, sur des très grandes distances. Et donc, dire que cette viande est fraîche n'est pas normal. Donc, en fait, il faut un peu complexifier les contrôles et la communication pour que ça soit juste. Un autre problème qui affecte surtout les paysans français, c'est que la terre est très peu chère. En France, on a une densité faible depuis très longtemps, depuis le temps de Louis XIV. Et donc, la terre n'est pas très chère, mais elle revient très chère aux paysans parce que s'ils vendent une partie de leur terre ou de leurs parents, il faut aussi en acheter d'autres pour s'agrandir. Hein. Quand j'étais jeune, il y avait 2 millions d'exploitations, maintenant c'est de l'ordre de 400 000. Et il en disparaît tous les jours. Donc les paysans, le prix de la terre est peu cher en France et donc en fait, beaucoup de Hollandais qui veulent cultiver en France ou de Britanniques ou d'Allemands, ils peuvent venir acheter des terres en France parce que s'ils vendent eux quelques hectares, ils en racheteraient beaucoup plus, une dizaine en France. Donc, parce que les prix sont très différents. Donc, tous ces problèmes-là sont complexes. Il y a des lois en France qui protègent l'acquisition des terres par d'autres que les paysans, mais un détail de la loi fait que si c'est une société financière qui l'achète, à ce moment-là, les droits de la SAFER, c'est-à-dire l'organisme local qui permet d'assurer des préemptions, des achats prioritaires pour protéger les paysans, ces lois ne jouent pas. Donc, en fait, il y a toujours des détails à préciser, à mieux réglementer. Et effectivement, quand il y a trop de règlements, il y a aussi beaucoup de complexité pour les ruraux qui disent qu'ils passent maintenant beaucoup de temps dans leur bureau, sur l'ordinateur, à remplir des formulaires, à faire des déclarations. Et quand la confiance ne règne pas, ceci est difficile à gérer, ça prend beaucoup de temps. Et c'est une colère qui s'est exprimée. D'ailleurs, le gouvernement a dit qu'il allait tenter de faire le plus possible de simplification. Et je crois, effectivement, comme les règlements européens sont très complexes, qu'il y a eu parfois des abus, il y a de nombreux contrôles, et ça rend la vie des paysans au niveau administratif très difficile à gérer.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Corneille, c'est bien parce qu'aujourd'hui, vos deux discours sont différents, donc on peut en débattre. Alors, je vais vous reposer la même question, sachant que les déclarations de Macron dans le salon de l'agriculture a fait plus de colère auprès des agriculteurs. Je rappelle que la France a décidé de donner plus d'aide à l'Ukraine d'un point de vue financier, alors que les agriculteurs en ont besoin, que les Français en ont besoin, puisqu'ils voient les Européens même en général, parce que c'est toute l'Europe qui prend la décision d'aider et de continuer la guerre en Ukraine. Et les habitants, les citoyens européens ne comprennent pas, sachant qu'ils sont eux-mêmes en difficulté. Alors encore une fois, je vous repose la même question de manière différente. En voyant les élections européennes arriver, les prochaines élections même nationales en Europe et aux États-Unis arriver, est-ce qu'on va s'attendre à une scissure encore plus importante entre les citoyens et les plutocrates, les démocrates, les bureaucrates, les libéraux, j'ai envie de dire?
De fait, oui, mais c'est vraiment le système abusif sur lequel le monde occidental est aujourd'hui basé, mais qui a aussi été exporté au monde entier. C'est un accident de l'histoire occidentale, c'est-à-dire une prédation financière qui a été juste répandue. Mais c'est un accident de l'histoire. Ce n'est pas le véritable Occident, et encore une fois, aucune civilisation ne se serait développée comme ça. Mais vous avez en effet, et là c'est le principe du mondialisme, c'est raconté notamment par John Perkins au sujet des assassinats financiers des États, des pays émergents qui auraient pu se développer, c'est qu'à chaque fois, le mondialisme développe en réalité, toujours par cette prédation internationaliste, il veut des esclaves, donc il ne va pas développer les pays. Mais il crée partout une petite caste d'obligés, des gens qui en bénéficient, mais qui sont par définition ultra et de plus en plus minoritaires. À l'arrivée, vous avez une paupérisation, vous rendez pauvre l'intégralité du monde alentour. C'est très négatif, en fait. C'est très négatif, mais c'est ce que l'Occident détourné et subverti par sa finance prétend aujourd'hui exporter au monde. C'est aussi pour ça que les BRICS sont en train de réfuter tout cela, parce que de fait, l'Occident, c'était Jean Ziegler qui le disait, je crois, en 2005, c'est devenu l'empire de la honte par la faim et par la dette. La finance occidentale, pseudo-occidentale, règne sur le monde. L'arrivée est très négative. En fait, les conséquences sont très négatives. Voilà.
Merci, Monsieur Corneille. Merci, Monsieur Bernard Cornu. Ce sont sur ces mots que nous finissons. Dans tous les cas, on espère que la situation en Europe va s'améliorer, hein, parce que, enfin, les conséquences pourraient être beaucoup plus graves si ça continue. Dans tous les cas, nous, on espère que les choses vont s'améliorer. Et nous avons fini notre débat aujourd'hui. Je vous propose de voir nos débats, nos précédents débats et le débat d'aujourd'hui de nouveau sur notre site internet ou nos réseaux sociaux. N'oubliez pas que depuis le 7 octobre, la chaîne Presse TV soutient la question palestinienne. Donc la plupart de nos débats à partir du 7 octobre est en soutien aux Palestiniens qui meurent tous les jours. Je vous rappelle encore que des organismes internationaux et occidentaux expliquent et expriment leurs préoccupations concernant la famine dans Gaza. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet de débat. Au revoir.
Le tourisme gastronomique en ligne. Le tourisme gastronomique, également appelé tourisme culinaire, est un type de voyage touristique associé à la cuisine locale dans le but de découvrir l'histoire, le savoir-faire et la culture d'un pays à travers ses spécialités culinaires. Le tourisme gastronomique en Iran est une série de 36 émissions qui tentent de faire découvrir à nos fidèles auditeurs la riche cuisine iranienne. La province de Gilan, terre de pluie, de forêt et de mer, est connue depuis longtemps comme une plaque tournante du tourisme en Iran. L'une des raisons de l'attractivité de la province septentrionale de l'Iran est la variété des aliments de cette région et la créativité des habitants du Gilan pour combiner les aliments et créer des saveurs délicieuses et fraîches. L'existence de produits alimentaires diversifiés dont ont eu un rôle prépondérant la nature généreuse, verte et bénie de cette région, est une des raisons de cette variété alimentaire. Nous nous découvrirons ensemble la province du Gilan dans quelques épisodes de la série radiodiffusée « Tourisme gastronomique en Iran ». Merci de nous rester jusqu'à la fin du programme. Entouré par la chaîne de montagnes d'Alborz, les montagnes de Talech et la mer Caspienne, la province verte du Gilan est devenue une terre où une rivière coule de la montagne de chaque côté et où la verdure des forêts attire les regards. Les découvertes des archéologues indiquent que des civilisations vieilles de 3000 ans, telles que Marlik et Amlach, existaient dans la province nord. Bien entendu, certains signes témoignent de ce que des tribus vivaient dans cette région avant la dernière période glaciaire, il y a entre 50 et 150 000 ans. Après la migration des Aryens et d'autres groupes ethniques vers cette terre, de nouveaux groupes ethniques sont apparus, parmi lesquels deux groupes ethniques, Gil et Deilam, étaient majoritaires. Dès le début, les dirigeants de cette ethnie jouissaient d'une liberté totale et ne se rendaient jamais aux étrangers, à d'autres dirigeants et n'obéissaient même pas au gouvernement mède. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Gilaniens s'unirent à l'Achéménide Cyrus et renversent l'Empire mède. Après l'arrivée de l'islam en Iran, le Gilan est devenu un lieu de résidence sûr pour les Alevis. Par conséquent, les habitants du Gilan et de Deilam se sont progressivement convertis à la religion Alevie et ont fait de grands efforts pour la propager. Les Gilaks, les habitants du Gilan, ont également joué un rôle majeur dans la victoire de la révolution constitutionnelle et ont conquis Téhéran avec d'autres ethnies. Le rôle du peuple du Gilan dans le mouvement de Mirza Kuchakran Djangali est un autre exemple brillant de la liberté du peuple de cette terre. Force est de constater que Mirza Kuchakran Djangali est le fondateur d'un mouvement révolutionnaire basé dans les forêts du Gilan, au nord de l'Iran, qui est connu sous le nom de mouvement Djangal, forêt en français. Ce soulèvement populaire a commencé en 1914 et est resté actif contre les ennemis internes et étrangers jusqu'en 1921, quand le mouvement a été vaincu. La province de Gilan est la 12e province la plus peuplée d'Iran et en raison de son climat doux et de son sol fertile, la densité de population est élevée et se classe au 3e rang des provinces à cet égard. Le climat de cette province est modérément humide. Les montagnes Talech et les chaînes de montagnes Alborz empêchent l'humidité de la mer de passer vers le sud et le niveau d'humidité dans cette province est élevé pendant la plupart des mois de l'année. Une humidité élevée modère le climat et de fortes gelées ou des journées très chaudes se produisent rarement dans cette région. Bien sûr, parfois, l'augmentation de l'humidité en été nous fait assister à des jours pluvieux dans cette province. Puisque le climat, les conditions météorologiques favorables et le bon sol du Gilan sont prêts à cultiver toutes sortes d'aliments naturels, y compris des légumes d'été, des fruits, des légumineuses, etc., l'abondance de dons divins est venue en aide aux dames gilanaises de bon goût pour créer et cuisiner des plats délicieux. En outre, tous les types de poissons, notamment le poisson blanc, contribuent largement à l'alimentation des Gilanais. À tout cela s'ajoutent les vastes champs de culture du riz et l'utilisation du riz dans la préparation de divers plats. Et ici, il s'agit des parties des manifestations attrayantes de cette terre riche et fertile. Ces dernières années, le réseau de villes créatives de l'UNESCO a considéré les différentes villes du monde avec un enregistrement mondial de différentes villes dans différents domaines culturels, sociaux et artistiques. Dans la zone des plats spéciaux, la ville de Rasht en Iran, avec des villes comme San Antonio, Foucault et Bergen, ont été incluses dans la liste des villes créatives. Rasht est une ville où l'on sent toujours l'odeur de la pluie, accompagnée de l'odeur des plats savoureux et colorés. Beaucoup considèrent Rasht comme la capitale de la nourriture en Iran, bien que Rasht soit aussi le chef-lieu de la province qui a 179 types de plats locaux enregistrés. Il y a une variété d'aliments cuits, avec du poisson, une variété de légumes indigènes, des champs de thé, ainsi que de muffins arrondis et dorés. Le Gilan est une terre de diversité ethnique et dialectale, et bien qu'il soit l'une des plus petites provinces en termes de superficie géographique, sa diversité culturelle sont visibles plus que partout ailleurs. Pendant de nombreux siècles, différents groupes ethniques, dans différentes régions de la province du Gilan, ont vécu ensemble pacifiquement, et cette coexistence a créé une culture commune. En même temps, ces groupes ethniques ont préservé leurs caractéristiques ethniques et dialectales. Cette riche culture s'est manifestée dans les coutumes et les traditions des habitants du Gilan. Les Iraniens connaissaient le riz depuis la période achéménide et ils cultivent plus ou moins de riz dans toutes les régions de leurs terres qui disposent de beaucoup d'eau et d'un climat chaud. La province du Gilan est la région rizicole la plus importante d'Iran, ce qui permet aux habitants de cette région d'accéder facilement à l'un des ingrédients de base. Alexander Boreshko-Shotsko, un chercheur polonais du XIXe siècle, a écrit dans le livre « Le pays du Gilan » « Le Gilan est le sol de tout l'Iran, où la volaille est abondante partout, et le savoir-faire des cuisiniers de ce système est très célèbre, même à la cour de Téhéran. » En outre, l'existence de divers légumes et fruits des bois et leur grande variété aux différentes saisons de l'année est une autre raison importante de la diversité et des goûts alimentaires des habitants de la province du Gilan, en particulier de la ville de Rasht. Le Gilan possède une variété unique de plats sans viande qui peuvent être servis seuls, en apéritif ou avec d'autres plats, notamment du poisson. Le mirzorasemi est l'un des plats locaux les plus authentiques de la province, composé de tomates, d'aubergines grillées, d'ail, d'épices et d'eau. Pour commencer la cuisson, faites d'abord griller les aubergines avec la peau au gaz. Une fois les aubergines complètement cuites, retirez-les du feu et placez-les dans un plateau pour qu'elles refroidissent. Retirez la peau et la tête des aubergines une fois refroidies. Coupez les aubergines avec un couteau ou écrasez-les complètement. Ensuite, épluchez les tomates et râpez-les ou réduisez-les en purée. Écrasez ou râpez l'ail épluché. Versez un peu d'huile de friture dans un poêle et placez-la sur feu moyen jusqu'à ce que l'huile soit chaude. Mettez l'ail dans la poêle et faites-le frire pendant 10 secondes. Ajoutez-y ensuite de curcuma, de poivre noir ou rouge. Après environ une minute, cassez les œufs à côté de l'ail dans la poêle et remuez jusqu'à ce qu'ils soient complètement cuits. Retirez l'eau et l'ail de la poêle et réservez. Versez la purée de tomates dans la même poêle et faites frire un peu. Ajoutez du sel, les tomates et si besoin, versez un peu d'huile dans la poêle. Faites cuire les tomates et les aubergines à feu moyen pendant environ une demi-heure. Une fois l'aubergine et la tomate bien mélangées, ajoutez le mélange d'ail et d'eau. Mélangez tous les ingrédients ensemble, puis apportez-le à table avec du riz brun et du pain frais, des légumes, de l'ail mariné et des olives.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.